L'avocat doit réfléchir en amont à la détermination d'une véritable politique d'honoraires en fonction des prestations qu'il va offrir. Le temps de facturation, c'est du temps de travail.
Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast du jeune avocat réalisé en partenariat par la Gazette du Palais et la FNUJA. On a beau avoir la passion de son métier, l'argent incontestablement reste le nerf de la guerre. Et pour un avocat, cette nécessité passe principalement par les honoraires. Quelles sont les règles pour les évaluer, les encadrer et finalement les toucher? C'est ce que nous allons voir avec Sonia Oulacek, avocate à Aix-en-Provence et présidente de la FNUJA. Sonia, bonjour.
Bonjour Laurence.
Première question, quels sont les critères pour déterminer ses honoraires?
Dans le cadre de son développement d'activité, l'avocat va être amené à présenter au client ou au client potentiel son offre qui comprend évidemment son coût. C'est une obligation qui est prévue par le Règlement intérieur national de la profession d'avocat, le RIN. L'avocat doit informer son client dès sa saisine des modalités de détermination des honoraires et l'informer régulièrement de l'évolution de leur montant. Cela correspond aux exigences de la visibilité de l'honoraire pour le client que le juge va vérifier en code de contentieux par exemple. L'avocat doit donc réfléchir en amont à la détermination d'une véritable politique d'honoraires en fonction des prestations qu'il va offrir. C'est une réflexion qui se fait en tenant compte de plusieurs critères, qui sont pour la plupart d'ailleurs appelés par le RIN. D'abord, des critères qui sont relatifs à l'affaire elle-même, la nature, la complicité de l'affaire, l'importance des intérêts en cause ou encore les enjeux du dossier pour le client. D'autres critères sont relatifs à la situation de fortune du client, qui va différer évidemment si le client est une entreprise, un institutionnel, un particulier, ou si c'est le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle. Cela dépend également du travail de l'avocat sur l'affaire, le temps qu'il va devoir y consacrer notamment pour la recherche et pour la rédaction, et tous les critères relatifs à la qualité de l'avocat lui-même, sa notoriété, ses titres, son ancienneté, son expérience ou encore, et vous l'avez vu lors du précédent épisode, sa spécialisation. Un autre critère qui va être impératif pour l'avocat au moment de la détermination de ses honoraires, c'est celui de l'objectif de rentabilité qui doit être défini au sein du cabinet afin que les honoraires couvrent l'ensemble des charges de l'avocat. La politique de l'honoraire peut évidemment évoluer au regard de nouvelles offres qui sont développées par le cabinet, de nouveaux besoins, d'attentes des clients et puis de l'évolution de la rentabilité du cabinet.
Quels sont les différents modes de calcul?
Vous avez plusieurs modes de calcul. Le premier et le plus simple, c'est celui de la méthode du temps passé, qui est sur la base d'un taux horaire à définir en fonction des critères que l'on vient d'évoquer. C'est la méthode donc la plus simple, puisque la jurisprudence vient nous dire qu'une simple signature suffit pour rendre le taux quasiment inattaquable. Ça présente toutefois un inconvénient majeur, puisque le juge reste libre d'apprécier la réalité du service qui est rendu par l'avocat. Le juge peut réduire l'honoraire convenu s'il apparaît exagéré au regard du service qui est finalement rendu. Le temps passé, c'est la méthode qui est aussi la plus critiquée par le client parce qu'il a besoin d'avoir au moment où il s'engage une idée du coût total de l'intervention de l'avocat. Et c'est d'autant plus important dans ce cas de répondre aux critères de visibilité qu'on évoquait tout à l'heure. La deuxième méthode, c'est celle du forfait qui prend en considération plusieurs éléments. Même s'il s'agit d'une prestation forfaitaire, l'avocat doit s'interroger sur la rentabilité du dossier, notamment sur le rapport entre le temps passé sur ce dossier et sur les honoraires qu'il va proposer, parce que le forfait peut vite s'avérer finalement très peu rentable. Donc pour déterminer son tarif, il faut estimer le temps à passer sur le dossier au regard de son expérience. L'avocat va pouvoir malgré tout, même en ayant recours au forfait, prévoir les prestations qui ne rentreront pas dans ce cadre. Ça va être le cas par exemple quand le dossier va nécessiter plusieurs jeux de conclusion supplémentaires, qu'un incident de procédure intervient en cours d'instance ou encore qu'un appel est interjeté. Dans ces deux cas, qu'il s'agisse du temps passé ou de l'honoraire forfaitaire, il est possible de proposer à son client un honoraire variable, qu'on appelle honoraire de résultat, qui prend la forme d'un pourcentage qui va s'appliquer sur les gains obtenus du fait de la procédure en cours et qui seront recouvrés ou bien sur les économies réalisées par le client. Il faut toutefois rappeler deux choses importantes. La première, c'est évidemment que pour facturer ce résultat, il faut que la décision ait un caractère définitif. La seconde, et c'est là aussi important de le souligner, à ce jour, il n'est pas possible de fixer ses honoraires uniquement sur un honoraire de résultat, c'est-à-dire que le pacte de quotalitis n'est pas permis. La dernière méthode de fixation des honoraires, elle est un petit peu moins utilisée, mais elle tend à se développer, c'est celle de l'abonnement. Ça va répondre à un besoin spécifique du client qui a un besoin d'accompagnement régulier dans son activité professionnelle. Quelle que soit la méthode que l'avocat va retenir, qu'il s'agisse de l'honoraire au temps passé, d'un honoraire forfaitaire ou d'un abonnement, il faut toujours qu'il garde à l'esprit les objectifs de rentabilité du cabinet. C'est-à-dire qu'il doit d'abord couvrir ses coûts de fonctionnement, qui correspondent à environ 60% des honoraires en moyenne, et assurer sa rémunération avec les 40% restants.
La convention d'honoraires est-elle obligatoire ?
Alors, l'article 11.2 du RIN prévoit que la convention d'honoraires est le principe. L'avocat conclut par écrit avec un client une convention qui va préciser notamment le montant ou le mode de détermination des honoraires, les diligences prévisibles qu'il va couvrir, les frais et les débours envisagés. Cette convention d'honoraires n'est pas soumise à un formalisme particulier, contrairement à l'idée qu'on se fait de la convention d'honoraires classique avec un rappel des parties, la succession d'articles, etc. La jurisprudence vient nous rappeler très régulièrement qu'un simple échange de correspondance peut suffire. La Cour de cassation, elle s'intéresse plus évidemment au consentement du client, en recherchant qu'il soit, comme pour tout contrat, exempt de vice au moment de la conclusion du contrat, ce qui est notamment le cas en cas de situation de contrainte pour le client. Donc il est préférable d'avoir recours à la convention d'honoraires, notamment en ce qui concerne le taux horaire et la nature des diligences qui sont incluses au forfait, ou pour ce qui est d'envisager la situation de rupture, on en parlera tout à l'heure de la rupture de la convention d'honoraires. Sachez que le Conseil national des barreaux met à disposition des avocats plusieurs modèles de conventions d'honoraires sur son site internet.
Quels sont les cas où l'avocat et le client peuvent se passer de convention ?
Alors, il existe bien des exceptions au principe de la convention d'honoraires. C'est toujours l'article 11.12 du RIN qui vient les lister. On peut se passer de cette convention d'honoraires en cas d'urgence. C'est le cas, par exemple, de l'avocat qui serait saisi le matin pour assister un client l'après-midi en comparution immédiate. Également en cas de force majeure ou alors lorsqu'on intervient au titre de l'aide juridictionnelle ou dans le cas des missions définies au titre de l'aide juridique.
Quels sont les risques encourus par l'avocat s'il ne fait pas signer de convention d'honoraire ?
Le risque, il va apparaître évidemment si l'avocat n'est pas payé. Avant ça, il n'y a pas de risque. Mais si l'avocat n'est pas payé, qu'il va devoir procéder à un recouvrement de ses honoraires vont probablement être contestés par le client. Le défaut de signature de la convention d'honoraires ne va pas priver l'avocat du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors qu'elles sont établies, des honoraires. Mais dans cette hypothèse, les honoraires vont être fixés en tenant compte des usages, de la situation de fortune du client, la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences qu'il a accomplies. Et c'est le juge de l'honoraire qui va rechercher ces critères pour fixer lui-même le montant des honoraires qui sont dus par le client.
Quelles sont les bonnes pratiques en matière d'honoraires ?
D'abord, il faut envisager ces questions du point de vue de l'avocat libéral, qui est avant tout un chef d'entreprise. La viabilité du cabinet va reposer sur la capacité de l'avocat à développer son chiffre d'affaires. Il doit parvenir à générer suffisamment de recettes pour faire face à ses charges, et le montant de ses recettes est difficile à déterminer d'un mois sur l'autre. C'est pourquoi il faut déterminer une facturation prévisionnelle sur plusieurs principes. Les honoraires d'abord facturés à horizon 3 mois, 6 mois et 1 an. Sans retenir les potentiels honoraires de résultat qui présentent, comme on l'a vu, un caractère aléatoire. C'est un exercice qui est redouté par l'avocat. Dans ce cas-là, l'astuce, c'est de se reporter à son niveau de charge et à un objectif plus global de croissance de chiffre d'affaires. Il faut ensuite déterminer un objectif ambitieux mais réalisable sur la base de l'existant à facturer et du prévisionnel de dossier. Ça va permettre à l'avocat d'anticiper des éventuelles baisses d'activité, d'identifier des périodes de creux et de décalage de trésorerie. Ça permet alors d'organiser sereinement ses congés pour limiter au mieux les incidences de son absence sur son activité ou de mettre en œuvre en amont des actions de communication. Si on n'a pas de prévisionnel, on n'identifie pas les périodes de creux et les actions de communication ne sont pas mises en œuvre suffisamment tôt pour que l'avocat profite du retour de ses actions pendant une période de baisse. Et à contrario, une action de communication mal programmée peut venir porter ses fruits alors que l'avocat doit déjà faire face à une période de forte activité. Ça pourrait l'empêcher de répondre aux nouvelles demandes et dans ce cas, les effets de l'action de communication sont totalement annulés. Vis-à-vis du client ensuite, pour atteindre son objectif de facturation, il est primordial de facturer régulièrement et d'adresser, le cas échéant, un appel de provision. Il faut s'astreindre à facturer au moins une fois par mois et une consoeur me rappelle régulièrement que le temps de facturation, c'est du temps de travail. Cette séance de facturation, elle doit être l'occasion de refaire le tour des dossiers facturables, de s'assurer que tous les temps facturables sont effectivement facturés. Il ne faut pas hésiter à facturer même de petites sommes parce qu'il va être évidemment difficile plus tard de justifier d'une facturation de temps très ancien. À mon sens, il est essentiel de recourir à un logiciel de gestion de cabinet qui permet de simplifier le suivi des diligences, les opérations de facturation et surtout les opérations de relance.
Quels outils l'avocat a-t-il à sa disposition pour établir ses conventions d'honoraires ?
Alors j'évoquais tout à l'heure les différents modèles de conventions d'honoraires qui sont mis à la disposition des avocats sur le site internet du Conseil national des barreaux en fonction du mode de facturation qui est retenu et qui prendrait par exemple en compte la situation d'un probable retour à meilleure fortune du client en cours de procédure. C'est aussi les modalités de signature de la convention d'honoraires auxquelles il faut s'intéresser. Et là encore, le CNB a développé un outil qui est la e-convention d'honoraires. C'est un module qui est intégré à la plateforme e-acte d'avocat, qui est accessible depuis l'espace avocat à chaque avocat qui détient une clé RPVA et qui va permettre de faire signer à distance la convention d'honoraires à son client. C'est un service qui est gratuit et qui présente beaucoup d'avantages, je l'ai dit, notamment celui de faire signer à distance et en toute sécurité la convention d'honoraires.
Quelles sont les mentions obligatoires qui doivent figurer sur la facture ?
Alors c'est l'article 242 du Code général des impôts qui vient les préciser et l'article L441-3 du Code de commerce. Ce sont les obligations relatives à l'identification notamment. L'identité de l'avocat ou de la société avocat qui est émetteur de la facture, celle du client qui est facturé, l'identification également de la facture par une numérotation et toutes les informations relatives à la TVA, car l'avocat est, même s'il ne l'a pas toujours été, aujourd'hui collecteur de TVA. En ce qui concerne la TVA, les mentions obligatoires, elles varient en fonction de la situation. Il y a deux hypothèses. La première, c'est celle de l'avocat qui n'est pas assujetti à la TVA, car son chiffre d'affaires annuel ne dépasse pas un certain seuil. Et là, il suffit d'écrire sur la facture la mention TVA non applicable, article 293B du Code général des impôts sur les factures. Il y a deux seuils qui vont déclencher l'assujettissement de l'avocat à la TVA. Le premier est de 47 700 euros en cours d'année, qui va vous faire passer à compter du 1er janvier de l'année suivante à l'assujettissement à TVA. Le second seuil, c'est celui de 58 600 euros. S'il est franchi cette fois en cours d'année, il va vous faire perdre le bénéfice de la franchise de TVA dès le premier jour du mois au cours duquel le déplacement est intervenu. Et à ce moment-là, lorsque vous êtes assujetti à la TVA, vous devez en tenir compte dans votre processus de facturation. Donc vous devez indiquer votre numéro de TVA intracommunautaire et détailler le montant de la TVA sur vos factures en précisant le montant hors taxe de vos honoraires. La TVA qui est applicable, le taux de TVA applicable, et pour les avocats, c'est malheureusement 20%. Le montant donc de cette taxe qui s'applique sur le montant hors taxe et le prix de la prestation, toutes taxes comprises. En plus de ces mentions obligatoires, l'avocat doit tout de même prévoir sur ses factures le détail des diligences qu'il facture, c'est important notamment en cas de contestation plus tard des honoraires par le client, le détail des frais et des débours et le décompte détaillé des honoraires qu'il a facturés.
Quels sont les frais qui doivent être facturés au client ?
Outre les honoraires, l'avocat refacture au client les frais, les débours, les émoluments. Et d'ailleurs, il convient, tout comme la facturation des honoraires, d'être régulier dans la facturation des frais facturés au client, surtout lorsque ce sont des frais et des débours qui font l'objet d'une avance de la part de l'avocat. Pour les frais, ce sont classiquement les frais de déplacement ou d'impression. Pour les débours, cela peut être des frais d'enrôlement avancés pour le client ou encore le droit de plaidoirie de 13 euros qui permet aujourd'hui aux avocats de contribuer au financement de leur retraite de base et qui n'est pas, comme on le pense souvent, une cotisation supplémentaire. C'est bien non là le moyen de faire régler une partie de ces cotisations retraite par le client.
À partir de 2025, la facturation deviendra obligatoirement électronique. Comment cela va-t-il se passer ?
La facturation électronique, elle vise à permettre à l'administration fiscale d'obtenir les données de facturation, de transactions et de paiement des professionnels qui sont assujettis à la TVA, et donc cela va nécessairement concerner les avocats. Le dispositif présente deux modes de transmission, celui de la facturation électronique, c'est-à-dire le modèle principal du dispositif qui permet une transmission des données simultanément à la facturation. La deuxième possibilité, c'est celle de mettre en œuvre une facturation électronique, mais a posteriori, c'est-à-dire que l'avocat transmette a posteriori les données relatives à ses transactions. Alors ce système, il devait être mis en place progressivement à compter du 1er juillet 2024. Il a été reporté pour les grandes entreprises au 1er septembre 2026 et pour les autres assujettis au 1er septembre 2027. C'est un dispositif qui inquiète la profession, notamment au regard du secret professionnel, hein, qui pourrait être mis à mal en fonction des mentions qui devraient ou devront obligatoirement figurer sur la facture électronique. Le report annoncé du dispositif est évidemment le bienvenu. Il va nous permettre une réflexion sur les modalités de cette facturation électronique et réfléchir à peut-être l'adoption d'une plateforme souveraine par la profession, respectueuse des données soumises au secret professionnel ou encore par une labellisation d'opérateurs qui prendra en charge des engagements spécifiques pour la protection des données transmises.
Quel est le délai pour l'encaissement ?
Si rien n'est prévu avec le client, le délai de règlement des sommes dues est fixé au 30e jour suivant la date d'exécution de la prestation. La facture envoyée au client doit d'ailleurs mentionner la date à laquelle le paiement doit intervenir et préciser le taux des pénalités exigibles le jour suivant la date de règlement. Si c'est le cas, si ce taux est mentionné, un rappel ne sera pas nécessaire pour que les pénalités de retard soient exigibles. Alors ça, c'est le principe, mais la réalité est bien évidemment différente. D'abord, pour être réglé, la facture doit être envoyée. C'est la raison pour laquelle il est indispensable de s'astreindre à facturer régulièrement. Et ensuite, le règlement de 30 jours, si c'est la règle, il arrive très fréquemment que les clients, et en premier lieu les entreprises, imposent à l'avocat des délais beaucoup plus longs. Il n'est pas envisageable de saisir le bâtonnier à chaque fois que son client tarde à régler la facture, notamment quand il s'agit d'un professionnel, quand il a une politique de règlement de ses fournisseurs à 60 jours, par exemple. En revanche, ce qui est intéressant, c'est de connaître les dates limites d'enregistrement des factures par la comptabilité de son client pour repousser au mois suivant le règlement de sa facture. Il est aussi indispensable de mettre en œuvre dans le cabinet des campagnes de relance de factures impayées. Là encore, comme on l'évoquait tout à l'heure, le logiciel de facturation est précieux pour soutenir l'avocat dans cette tâche. Enfin, il faut le garder en mémoire, un délai important qui est celui du délai de prescription pour l'avocat pour recouvrir ses honoraires, qui est un délai de 2 ans.
Que se passe-t-il en cas de rupture de la convention d'honoraires ?
En cas de rupture de la convention d'honoraires, soit parce que l'avocat est dessaisi du dossier au profit d'un autre confrère, soit parce que l'avocat a mis un terme à sa mission, la convention cesse d'être applicable et les honoraires correspondant à la mission partielle effectuée par l'avocat jusqu'à cette date doivent être appréciés en fonction des seuls critères définis par l'article 10, alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1971, qu'on a évoqué tout à l'heure, les usages, la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. Il est possible et évidemment préférable d'aménager conventionnellement l'hypothèse de la rupture de la convention d'honoraires dans sa convention pour se prémunir en cas de contentieux.
Comment l'avocat peut-il recouvrir ses honoraires en cas de non-paiement ou de contestation ?
Pour procéder à l'exécution forcée du paiement de ses honoraires, l'avocat doit obtenir un titre exécutoire. Et les contestations qui concernent le montant et le recouvrement des honoraires de l'avocat sont réglées par le décret du 27 décembre 1991 qui prévoit la compétence du bâtonnier du barreau du cabinet principal de l'avocat en matière de contentieux des honoraires. Lorsque la difficulté est relative aux honoraires du bâtonnier lui-même, ça arrive, la contestation, cette fois, elle est portée devant le président du tribunal judiciaire. Le bâtonnier peut être saisi par l'avocat ou par le client, et il va devoir examiner et contrôler les diligences en rapport avec l'honoraire par un examen détaillé des pièces, mais sans, en principe, un contrôle au fond, et il va également vérifier le temps qui a été passé sur le dossier. Cela va permettre une évaluation objective du coût de la prestation. Donc le bâtonnier dispose d'un véritable pouvoir juridictionnel et il intervient comme juge en première instance et rend à ce titre des ordonnances de taxation. Chaque partie a évidemment la possibilité d'interjeter appel dans un délai d'un mois qui est porté devant le premier président de la cour d'appel. Ces décisions de taxation, elles constituent des titres exécutoires que l'avocat va confier à un commissaire de justice pour engager des voies d'exécution forcée. Cela est possible lorsque la décision est définitive ou lorsque le bâtonnier a rendu sa décision immédiatement exécutoire. C'est possible depuis 2021 dans certaines conditions, c'est-à-dire dans la limite d'un montant de 1500 euros ou lorsque ce montant est plus important, dans la limite des honoraires dont le montant n'est pas contesté par les parties.
Lorsque les honoraires sont déposés sur un fonds CARPA, quelle est la procédure pour les récupérer ?
Alors la CARPA, c'est la caisse de règlement pécuniaire des avocats. La CARPA, c'est un tiers à la relation avocat-client. Et lorsque les fonds sont déposés sur un compte maniement de fonds et que l'avocat souhaite y prélever ses honoraires, la CARPA va devoir s'assurer d'abord de l'autorisation qui est donnée par le client à l'avocat pour le prélèvement de ses honoraires sur les fonds qui sont en réalité destinés au client. Dans un second temps, la CARPA va contrôler deux éléments. D'abord, la cause du déblocage de fonds, c'est-à-dire le paiement d'honoraires sur la base d'une facture qui est établie par l'avocat, et ensuite, le montant qui est débloqué.
Au terme de l'article 11.5 du RIN, les avocats sont tenus à ce que l'on appelle l'obligation du croire. En quoi consiste-t-elle et dans quel cas s'applique-t-elle ?
Lorsqu'un avocat fait appel à un confrère pour lui confier par exemple une mission de postulation ou la sous-traitance d'un dossier, ou lorsqu'il fait appel à un tiers, un commissaire de justice, un traducteur, un notaire, il est personnellement tenu, en cas de défaillance du paiement de son client, des honoraires, des frais et des débours que le client aurait dû lui-même régler. C'est ce qu'on appelle l'obligation du croire. L'avocat mandant peut convenir avec le confrère mandaté ou le tiers sollicité, qu'il n'est pas tenu à cette obligation du croire. Et dans ce cas-là, il doit indiquer expressément, dès l'origine et par écrit, à l'avocat ou au tiers mandaté, ne pas vouloir se soumettre à cette obligation. Cette mention, et c'est important de le dire, doit être claire et expresse et ne se déduit pas. Donc, vigilance avec les mauvais payeurs.
L'avocat peut-il être rémunéré pour avoir apporté un dossier à un confrère ?
C'est un sujet qui suscite depuis des années de vifs débats au sein de la profession. Et la profession est d'ailleurs très partagée puisque lors des états généraux sur l'avenir de la profession d'avocat, organisés par le CNB en 2018, la profession a voté une très très courte majorité en faveur de cette rémunération d'apport d'affaires entre avocats puisque 51% des avocats qui sont exprimés étaient pour. Aujourd'hui, le RIN interdit la rémunération de l'apport d'affaires. La FNUJ a essayé de porter au sein du CNB la possibilité pour le collaborateur d'apporter à son collaborant une affaire contre rémunération. Il n'était évidemment pas question de priver le collaborateur du développement de sa clientèle ou de faire de l'avocat un apporteur d'affaires à temps plein, mais de répondre aux demandes des avocats collaborateurs telles qu'elles ressortent des enquêtes collaboration de la profession. Cela aurait été le cas, par exemple, d'un collaborateur qui ne souhaitait pas traiter un dossier parce que le domaine de compétences nécessaire n'est pas le sien et qu'il ne souhaite pas s'y former par choix. Cette proposition, l'an dernier, n'a pas été retenue par l'Assemblée générale du CNB, mais j'ai l'espoir que ce sujet soit à nouveau évoqué durant la nouvelle mandature qui vient de prendre ses fonctions, ce qui nous permettrait d'ailleurs de réfléchir plus largement à l'attractivité de la collaboration libérale.
Les collaborateurs libéraux sont rémunérés par rétrocession d'honoraires. Quelles sont les règles en vigueur ?
Le collaborateur libéral va facturer chaque mois à son collaborant une rétrocession d'honoraires. C'est celle qui a été convenue au moment de la conclusion du contrat de collaboration ou celle qui a été réévaluée depuis. Rétrocession fixe qui est parfois complétée d'une rémunération variable en fonction du franchissement, par exemple, d'un chiffre d'affaires mensuel facturé par le collaborateur, au-delà duquel le chiffre d'affaires facturé entraînerait une rémunération supplémentaire sur la base d'un pourcentage. Pour le surplus des règles, elles sont identiques à la facturation d'un client lambda, avec évidemment l'intervention et le contrôle du bâtonnier en cas de difficulté. Au moment de la conclusion du contrat de collaboration libérale, les jeunes avocats peuvent se référer au tableau du Tour de France des rétrocessions d'honoraires minimales qui est établi par la FNUJA.
Il ne reste plus qu'à aller facturer. Merci Sonia pour tous ces conseils et à bientôt pour un nouvel épisode du podcast du jeune avocat.